Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous retrouvons petit à petit le rythme moyen des concerts en cette mi-janvier, mais c'est surtout à partir de la semaine prochaine que les choses vont s'accélérer considérablement. Beaucoup d'événements musicaux dans les genres les plus divers nous attendent d'ici quelques jours, avec en point culminant les 4 représentations de l'opéra de Richard Strauss, La Femme sans ombre, à l'Opéra National du Capitole du 25 janvier au 4 février. Un moment très attendu de la saison avec cette œuvre magnifique et rare que nous allons vous présenter en seconde partie de cette émission. Pour m'y aider, je salue le retour à Mélomanie de notre spécialiste de l'art lyrique, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Il est accompagné bien sûr de son vieux complice Serge Chosy, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et c'est avec Serge que nous allons tout de suite nous replonger dans l'actualité de la semaine passée. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux, très contents d'avoir reconstitué votre duo pour cette émission. Nous allons commencer par revenir...
Nous également, hein.
Je suis très content.
Les vieux complices, comme vous dites très justement, des vieux amis.
Pas l'ancienneté, pas par l'âge.
Oui, d'accord.
Votre amitié.
Et puis nous formons un vieux trio à nous trois, là.
Voilà. Oui, merci de m'intégrer à ce trio qui, effectivement, a une certaine ancienneté. On va l'appeler comme ça, on va dire les choses comme ça. Nous allons commencer par revenir sur le concert donné par l'Orchestre National du Capitole à la Lograin vendredi dernier, le 12 janvier donc, où nous avons eu le plaisir de retrouver le chef japonais Kazuki Yamada à la direction et de découvrir un jeune altiste britannique, Timothy Ridout. Serge Chosy va nous le présenter, ce musicien qui nous a beaucoup plu, vous allez voir. Ce qu'on peut dire d'emblée tout de même, Serge, c'est que ce concert a été donné à guichet fermé, ce qui confirme l'enthousiasme du public toulousain pour son orchestre symphonique. Et par les temps qui courent, je pense que ça mérite d'être souligné.
Absolument. Non seulement la plupart des concerts de la Lograin sont complets, mais en plus du bénéfice que représentent les concerts donnés par l'Orchestre National du Capitole, il y avait pour le diriger un invité habituel qui a son rond de serviette à Toulouse, en quelque sorte, Kazuki Yamada.
Je pense que c'est aussi pour ça que c'était plein, parce qu'il est très apprécié.
C'est un très grand chef qui adore l'orchestre, et les musiciens adorent ce chef, donc il revient régulièrement, pratiquement tous les ans.
Et en plus, il avait un programme qui lui convenait parfaitement, on va le voir.
Parfaitement, oui. Parce que c'est, comme de nombreux musiciens japonais, il est fanatique de musique française. Il adore la musique française, et dans tous ses programmes, il y a des œuvres de musique française. Et donc, il ouvrait le concert avec la suite d'orchestre Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré, qui est là à plusieurs titres, d'abord parce que c'est la musique française, et puis parce qu'on célèbre le centenaire de la disparition de ce grand chef apaméen, puisqu'il est de chez nous tout de même.
Chef et compositeur, surtout compositeur.
Oui,
longtemps directeur du Conservatoire de Paris, au début du XXe siècle.
Et donc, on a eu droit à cette magnifique suite d'orchestre qu'il dirige avec beaucoup de finesse et de délicatesse, avec des teintes particulières, des couleurs extraordinaires, avec notamment cette grâce de l'ouverture, enfin c'est d'une beauté incroyable, et puis le menuet, la gavotte, la danse en quelque sorte, qui est célébrée, et enfin la pastorale finale qui distille une sorte de tendresse apaisante. C'était vraiment un grand bonheur que d'écouter cette interprétation.
Une fluidité,
très applaudi.
Fluidité extraordinaire dans la direction, l'interprétation. Bien sûr.
Et puis, à la suite, grand contraste, après cette œuvre du bonheur, c'était le concerto pour alto et orchestre de Bartok, une des dernières œuvres de Béla Bartok, qui avait été commandée par l'altiste écossais William Primrose, alors que ce pauvre Bartok à New York était condamné par la leucémie. Et donc, il mourra peu après, d'ailleurs.
Il n'a même pas terminé l'œuvre, la partie.
Non, il n'a pas terminé.
Ce n'est pas lui qui l'a terminée.
Elle est restée inachevée. Mais il en a parlé quand même beaucoup avec William Primrose, donc le commanditaire et le créateur, en disant ceci: le caractère sombre, plus masculin de votre instrument a lui aussi exercé une certaine influence sur le caractère général de l'œuvre. C'est vraiment ce que l'on peut dire. C'est vraiment une œuvre noire, une œuvre sombre, mais avec un style très virtuose, puisque le compositeur lui-même reconnaissait qu'il y a toutes les chances pour que quelques passages se révèlent inconfortables, voire injouables. Et donc, nous avons fait la connaissance avec ce jeune altiste, Timothy Redoubt, qui est né à Londres en 1995, donc c'est un tout jeune musicien, et vraiment très recherché, puisque des altistes solistes, il n'y en a pas beaucoup dans le monde.
De ce niveau-là, non, c'est certain.
Et là, vraiment, il s'est impliqué dans cette œuvre de manière incroyable, à la fois de manière technique, c'était parfait, et puis surtout une implication musicale expressive qui a été, pour ma part, vraiment une révélation d'un grand musicien qui a eu un succès extraordinaire. Il a été applaudi, rappelé de multiples fois, au point qu'il est venu pour donner non pas un, mais deux bis, avec un premier bis... Alors, intéressant, qui n'est pas très courant non plus, un extrait de la sonate pour alto solo de Paul Hindemith, une œuvre sombre aussi. Et puis alors, comme il était encore rappelé, eh bien, il a fait appel à la super soliste de l'orchestre, Kim Jae-won, qui est venue jouer avec lui l'un des 44 duos pour violon de Béla Bartók, et en particulier celui qui s'appelle, alors je ne garantis pas ma prononciation du hongrois, Bankodash, qui veut dire « chagrin ». Donc c'était un peu le prolongement du concerto pour alto de Bartók, et ça a été un nouveau triomphe public, évidemment. Et puis c'était très touchant de sa part de faire venir l'une des musiciennes de l'orchestre pour jouer avec lui.
Oui, puis il a vraiment tenu à ce qu'elle soit acclamée autant que lui, il a fait se relever.
Voilà, elle s'asseyait, chaque fois il la faisait relever.
Très classe, très élégant.
Oui, complètement.
Très classe.
Et ça a été apprécié d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Eh bien, pour saluer le talent de Timothy Redoubt, acclamé donc, vous l'avez rappelé Serge, par le public de la Halle aux Grains, je propose de le réécouter dans le concerto pour alto de Béla Bartók. Il joue ici son troisième mouvement Allegro Vivace, accompagné par le Symphony Orchestra Aachen. Le concerto pour alto de Bartók et son troisième mouvement Allegro Vivace, interprété par Timothy Redoubt, accompagné par le Symphony Orchestra Aachen. Et donc la troisième œuvre au programme de ce concert du 12 janvier, c'était la symphonie numéro 3 avec orgue de Camille Saint-Saëns, pour laquelle nous avons eu le plaisir d'entendre Michel Bouvard, même si malgré le titre que porte cette symphonie, on ne peut pas dire que l'orgue y est vraiment la vedette, Serge.
Non, effectivement. Et d'autant plus qu'il s'agissait là d'un orgue électronique, que Michel Bouvard n'est pas un fanatique de l'orgue électronique.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'organistes qui soient fanatiques de l'orgue
électronique. Exactement, il préfère l'orgue à tuyaux, le véritable. Mais là, finalement, l'orgue s'intègre bien avec l'orchestre, dans l'orchestre. Et donc cette symphonie, Kazuki Yamada la dirige avec à la fois énergie et nuance. Il ne faut pas oublier que cette œuvre a été composée par Camille Saint-Saëns, dédiée à son ami Franz Liszt, qui était décédé depuis peu, en juillet 1886. Là, vraiment l'ouverture après l'adagio initial, c'est d'une vigueur sous la direction de Kazuki Yamada, impressionnante. Il joue beaucoup sur la diversité des épisodes. Et bon, c'est une progression irrésistible que cette œuvre du début à la fin, avec un équilibre parfait entre les divers pupitres, cuivre et cordes. C'est parfaitement équilibré. Bois et percussions aussi. L'orgue et le piano, il ne faut pas oublier qu'il y a un piano aussi, qui s'intègre parfaitement dans le tutti orchestral. Évidemment, c'est dans le dernier mouvement que l'orgue est impérial et apparaît sur un accord triomphant. Donc ce dernier mouvement était vraiment impressionnant, à la fois de maîtrise, d'enthousiasme. Et là, on a donc entendu les deux pianistes, puisque pour le dernier mouvement, il faut un piano à quatre mains. Donc ils étaient deux, il y avait Tom Grimaud, qui lui joue pendant toute l'œuvre, et puis il est rejoint pour le final par Anna Jbanova, qui était la seconde pianiste de ce...
D'ailleurs, c'était un couple à la scène comme à la ville.
Et oui, voilà, oui, donc très bien. Et ils ont fait ça magnifiquement. Ça a été évidemment un véritable triomphe, et on peut remarquer, c'est très amusant, que le chef était tellement heureux d'avoir dirigé ce concert, qu'il a parcouru tout le plateau pour aller remercier chaque pupitre, chaque soliste, en se déplaçant lui-même vers...
Il y a une telle complicité entre eux depuis et maintenant.
Complète,
je pense
complète.
Qu'il y a bien une douzaine d'années, hein, je pense que Kazuki Yamada vient diriger l'Orchestre du Capitole
presque tous les ans.
Presque chaque année.
Oui.
Et bien, pour terminer ce retour sur la soirée du 12 janvier à la Lograin, encore un peu de musique. Mardi dernier, je vais diffuser un extrait d'un concert de l'Orchestre du Capitole datant d'avril 2021, dirigé par Kazuki Yamada, et lors duquel avaient déjà été joués Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré. Après l'ouverture il y a une semaine, et bien voici La Gavotte. La Gavotte de Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Kazuki Yamada. Lors d'un concert à la Halle au Grain en avril 2021, nous allons rester en compagnie des musiciens de l'Orchestre du Capitole pour le second concert au sommaire de ce retour arrière, puisque trois d'entre eux étaient de nouveau sur le pont lundi, mais à Saint-Pierre-des-Cuisines, où a eu lieu le troisième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il était intitulé « Hommage à Fauré », encore lui, en référence au centenaire de la mort du grand compositeur ariégeois que nous commémorons donc en 2024. Il y avait deux pièces au programme, deux trios avec piano, et vous avez assisté aussi à cette belle soirée, Serge.
Ah oui, absolument. Voilà, donc on avait une formation violon, violoncelle et clavier, en l'occurrence piano, évidemment, pour ces deux trios que vous avez évoqués, le trio de Gabriel Fauré et le trio d'Ernest Chausson, avec deux œuvres très différentes l'une de l'autre, puisque le trio de Gabriel Fauré, c'est une de ses dernières œuvres, alors que le trio d'Ernest Chausson, c'est l'une de ses premières œuvres.
Et 40 ans séparent la composition de ces deux œuvres.
Alors qu'entre eux, il n'y avait que 10 ans d'écart.
Et que c'était Fauré l'aîné, c'est oui, surtout ça.
Oui, exactement. Alors, il faut dire qu'on avait trois musiciens vraiment de grande qualité, que l'on connaît déjà, qui se produisent beaucoup dans des concerts de musique de chambre, avec notamment Alexandre Dalbigot, qui est le violoniste. Il est tutiste de l'orchestre, évidemment, éco-soliste au sein de l'orchestre depuis 2004. Et puis il y avait Benoît Chapeau, qui est le violoncelliste et qui est également très actif en musique de chambre lui-même, au sein d'ensemble qu'il a d'ailleurs cofondé.
Oui.
Vraiment, ils sont en pays connu. Et la pianiste, c'est donc Inessa Lecourt, qui elle, bien que née en Russie, a beaucoup d'activités à Toulouse, puisqu'elle est à la fois accompagnatrice à l'orchestre, chef de chant au CRR de Toulouse et membre de la classe de direction d'orchestre à l'ISDAT. Donc vraiment, elle est très active chez nous. Et donc, ces trois musiciens ont abordé la musique de Gabriel Fauré, évidemment, avec un soin particulier, j'ai trouvé, qu'ils ont apporté aux modulations. Alors, le changement de tonalité, c'est les modulations. Chez Fauré, c'est primordial.
Ah oui.
C'est vraiment ce qui le caractérise, qui caractérise
oui.
son écriture. Et là, vraiment, une des dernières œuvres de musique de chambre de ce compositeur, elle s'écoute un peu comme une série d'échanges, de confidences entre les trois instruments. Et puis, un chant qui émerge dès les premières mesures, c'est le violoncelle. On a l'impression qu'il chante une mélodie de Gabriel Fauré.
Oui.
Expert en la matière, évidemment. Lyrisme élégant de ce premier mouvement, le rêve pour l'andantino, et enfin la fièvre chaleureuse du final. Ça a été un très beau moment qui a été là aussi très applaudi.
D'autant plus que la salle était aussi très bien remplie.
Hein. Ah oui, oui, très bien remplie, absolument. Et alors, en deuxième partie, en quelque sorte un miroir ou un écho, eh bien, ils ont joué le trio pour piano, violon et violoncelle, donc en sol mineur celui-là, d'Ernest Chausson, qui est cette œuvre de prime jeunesse, puisque c'est l'opus 3 de Chausson, qu'ils ont vraiment donné avec un sens de la déclamation et même du drame, puisque c'est tout de même une œuvre très forte, très tourmentée, si l'on compare au trio de Fauré. Hein. C'est quand même un style musical différent. Et donc, là aussi, tous les mouvements admirablement donnés par ces trois musiciens. Alors là, il y a quatre mouvements, évidemment, qui démarrent avec cette déclamation du premier, et puis cette légèreté du mouvement qui s'appelle Vite, d'ailleurs, qui évoque un peu les scherzos à la Mendelssohn. Hein,
oui.
Un peu. Et puis enfin, le chant nostalgique du mouvement lent, et puis l'espèce de volontarisme épique du dernier mouvement. C'était là aussi un très beau, très très beau moment qui a été très applaudi par le public, au point qu'évidemment, ils ont donné un bis. Et pour le bis, ils sont revenus à Fauré en jouant une transcription de sa célèbre pavane, bon, que l'on connaît bien. Donc,
il en existe plusieurs des transcriptions de la
pavane
pour trio avec piano.
Très nombreuses, hein, pour chœur, pour
après,
voix.
Pour d'autres formations, bien sûr.
Exactement. Donc, vraiment, c'était une belle manière de célébrer une fois encore le centenaire de la disparition de Fauré.
Et on n'a pas fini d'en entendre du Fauré en 2024. Et pour ma part, je m'en réjouis, je crois que je ne suis pas le seul. Il y avait donc le tardif, mais très beau trio avec piano en ré mineur, opus 120 de Fauré au programme. Je vous propose d'écouter son premier mouvement, Allegro ma non troppo. Thank you. Le premier mouvement Allegro Manon Troppo du trio avec piano en ré mineur opus 120 de Gabriel Fauré, une des deux pièces jouées lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines lors du concert Hommage à Fauré donné par les Clés de Saint-Pierre. Prochain rendez-vous de cette saison, lundi 19 février, avec un programme intitulé Les Vents Insolites. On en reste là pour ce retour arrière, courte pause de quelques secondes, et on se retrouve avec Serge Chauzy et Robert Pénavert pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Seconde partie de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chauzy et Robert Pénavert pour l'agenda de la semaine à venir. Nous allons l'ouvrir avec le troisième concert de la saison des Arts Renaissants. Il est programmé le mardi 23 janvier à 20h, également à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et il va nous permettre d'entendre pour la première fois à Toulouse un tout jeune duo formé par le pianiste Charles Esser et le percussionniste Aurélien Gignoux. Le premier né à Paris il y a 25 ans. Il est le fils des pianistes Jean-François Esser et Marie-Joseph Jude. Le second est toulousain, il a 26 ans et il est le fils du hautboïste Laurent Gignoux et de la flûtiste Cécile Robillard. Aurélien Gignoux a eu la gentillesse de m'accorder une petite interview une semaine avant son concert aux Arts Renaissants. Écoutez ce jeune homme déjà plein de maturité nous parler de sa passion pour les percussions, de sa formation de musicien à Toulouse et au CNSM de Paris, de sa récompense aux Victoires de la musique classique en 2021 et de sa joie de jouer au sein de l'ensemble intercontemporain. Aurélien Gignoux, bonjour et merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview pour Mélomanie une semaine avant votre concert avec Charles Esser le 23 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines à l'invitation des Arts Renaissants. Si vous le permettez, je voudrais qu'on revienne d'abord sur votre passion pour les percussions. Je rappelle que vous venez d'une grande famille de musiciens. Votre père, Laurent Gignoux, est oboïste. Votre mère, Cécile Robillard, est flûtiste. Votre grand-père, Louis Robillard, est organiste. Vous avez plusieurs oncles et tantes qui sont violonistes, violoncellistes et pianiste. Alors on pourrait s'étonner, pourquoi ce choix de vous diriger vers les percussions? Est-ce que c'est une passion née dans l'enfance ou est-ce que ça a été un moyen de vous démarquer du reste de la famille en quelque sorte?
Bonjour à tous, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai eu la chance de grandir, de baigner en fait dans un milieu musical très intense. On a parlé de ma famille et de cet univers-là, mais il y a aussi l'orchestre du Capitole dans lequel mes parents se produisaient à cette époque-là, dans lequel j'ai pu avoir accès à cette musique assez incroyable. Et je pense que la passion, en tout cas le goût des percussions, il est venu peut-être plus de là, plus de l'orchestre, parce que effectivement dans ma famille, il n'y avait pas de percussionniste à proprement parler. Et donc, en fait, j'ai choisi cette famille d'instruments très tôt, vers 3-4 ans, j'ai commencé à vouloir en faire. Ça s'est fait de manière presque instinctive, en fait. Il n'y a pas eu de conscience. En tout cas, la conscience, elle est venue se poser là-dessus un peu plus tard et ça a validé ce choix parce que voilà, c'est encore mes instruments et je m'amuse toujours autant avec cette famille d'instruments, mais c'est vrai que c'est venu d'un choix presque instinctif.
Vous l'avez rappelé, vous avez grandi à Toulouse et vous avez été tout naturellement élève au conservatoire à rayonnement régional de la Ville Rose. Quels ont été les professeurs qui ont compté le plus pour vous lors de vos années toulousaines?
Alors, en fait, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont apporté, et c'est aussi ça la richesse de la musique, c'est que des instrumentistes, des profs de chant, de piano, d'autres instruments, c'est toujours bon à prendre. Après, effectivement, des personnes qui sont quand même très importantes dans mon évolution, c'est Michel Ventula, qui était mon professeur de percussion, et j'ai envie de dire au même niveau d'importance, José Filatro, qui était mon prof de batterie, sachant que voilà, il y a une distinction qui est faite dans les conservatoires, de classes de percussion et de classes de batterie. Aussi, distinction de genre musical. Hein. D'un côté, plus improvisé, plus musiques actuelles, du jazz et toutes autres sortes de musique du côté de la batterie et de la percussion dans l'aspect plus classique. Mais cette double formation que j'ai faite, elle a été déterminante, en tout cas dans le futur et dans ma personnalité musicale. Ça m'a apporté beaucoup de savoir improviser, de savoir jouer de la batterie et en même temps d'avoir de construire une technique solide. Donc ces deux professeurs, je le vois avec du recul, ont été quand même très importants dans ma formation et je les remercie. Ouais.
Alors j'ai le souvenir pendant ces années toulousaines d'un concert de la saison des Clés de Saint-Pierre auquel vous aviez participé, je crois que c'était début 2011. Vous deviez avoir mais à peine 14 ans. Je ne sais même pas si vous les aviez d'ailleurs.
Peut-être dans ces années-là, en tout cas, c'est vrai que ça fait partie de mes premiers souvenirs musicaux dans un cadre hors conservatoire, donc en fait, d'une certaine manière, mes premiers vrais concerts. Et c'est amusant de remarquer que c'était à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, là où je me produis dans quelques jours à Toulouse. Donc il y a un peu cette boucle qui va se boucler. Grande émotion de revenir jouer là. Et même pour aller encore un petit peu plus loin dans la filiation, on jouait du Ravel et il y avait la suite de Ma Merloy. Et je vais jouer une des pièces de cette suite de Ma Merloy mardi prochain au concert. Donc la boucle se boucle encore plus, si j'ose dire, avec ce concert-là.
Oui, un vrai signe du destin, je vous revois. Exactement. Effectivement. Mais on était beaucoup à avoir compris que ce gamin qu'on voyait là, devant le gong, il irait loin et bon, le futur ne nous a pas démenti. Alors vous avez poursuivi vos études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et en 2021, vous êtes distingué par les victoires de la musique classique dans la catégorie Révélation soliste instrumentale. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette récompense ?
Alors ça a été déjà une grande joie, un bel aboutissement, une très belle reconnaissance, que ce soit pour mon travail personnel, mais aussi pour le monde de la percussion soliste qui est d'une certaine manière assez méconnu et qui a eu le mérite d'être mis sur le devant de la scène, donc c'était une vraie chance pour ça. Et moi, ça m'a aussi permis, notamment cet arrangement de Ma Merloy, plus précisément les Dronettes Impératrices des Pagodes que j'ai fait pour l'occasion. Ça m'a permis d'aller chercher un petit peu plus comment réussir à parler au plus grand nombre avec les instruments de percussion et en même temps un répertoire qui est connu de tous.
Et puis la même année, vous entrez à l'Ensemble Intercontemporain, prestigieuse formation créée par Pierre Boulez, il y a maintenant près de 50 ans, aujourd'hui dirigée par Pierre Bleuze, un autre Toulousain. Alors, et c'est aussi en 2021, donc ça a été votre année fétiche. Beaucoup de choses se sont passées à ce moment-là. Être aujourd'hui un percussionniste de cet ensemble, comme je le disais, très prestigieux, bah, j'imagine que c'est aussi un très grand bonheur pour vous.
Oui, ça fait partie. En tout cas, pour moi, c'est un des meilleurs endroits pour pouvoir continuer d'explorer la percussion, qui est un instrument finalement assez jeune historiquement dans sa version soliste. On n'a pas le répertoire des pianistes et des violonistes, donc tout est à faire. Être dans une structure qui privilégie la création, qui est dans la recherche, avec, il faut le dire, d'excellents instrumentistes mondialement reconnus, c'est vraiment un privilège immense, un challenge de tous les jours, c'est-à-dire que je me retrouve derrière des flopées d'instruments, et donc voilà, je suis toujours en recherche dans cette énergie-là créatrice, et c'est une vraie joie en plus d'être rejoint par un compère toulousain, Pierre Bleuze, que j'ai rencontré assez jeune hein, dans mes études. C'est aussi une grande joie de faire de la musique avec des belles personnalités musicales comme ça, donc c'est vrai que cet ensemble intercontemporain, c'est une chose assez extraordinaire pour moi, j'adore ce qu'on y fait, ouais.
À ce propos, lorsqu'on regarde les œuvres que vous interprétez le 23 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, on va en parler dans quelques instants avec vous, on a l'impression que vous vous intéressez à toute l'histoire de la musique du baroque au contemporain en passant par le jazz. Alors vous avez parlé de votre formation au Conservatoire de Toulouse, batterie et percussion, mais j'ai l'impression que vous aimez non seulement jouer vraiment tout, mais écouter aussi de tout, de vous nourrir de tout.
Absolument, ouais. C'est la force de la musique. Pour moi, dès qu'on commence à mettre des portes, des barrières, on perd quelque chose dans l'essence même de ce que c'est que la musique. Donc c'est vrai qu'écouter de tout, c'est déjà un premier pas. Et jouer de tout, c'est le second pas naturel, en tout cas pour moi. J'essaye de varier, de pas me cloisonner, de rester le plus ouvert possible. Et c'est vrai qu'en mêlant les genres, la musique contemporaine, c'est une chose, c'est génial pour la recherche, pour la créativité, mais le jazz aussi, et la musique baroque avec toute la démarche qui va derrière, c'est aussi quelque chose qui m'attire. En fait, la seule limite, c'est le temps, et c'est vrai que j'aimerais avoir des journées à rallonge pour pouvoir explorer tout le plus possible, mais c'est vrai que dès que je peux, j'essaie d'ouvrir les portes et d'aller un peu à droite à gauche.
Vous êtes encore très jeune et à mon avis, vous avez le temps d'explorer encore bien d'autres contrées. Un mot sur votre duo avec Charles Esser, comment vous vous êtes rencontrés ? Alors, je crois que c'est dans les couloirs du conservatoire à Paris, tout simplement.
Absolument, oui. Ça s'est fait un petit peu comme ça. J'avais entendu parler de lui, comme souvent au conservatoire, on entend parler des gens. Et on s'est rencontrés comme ça. Et on m'avait appelé pour faire un concert sur France Musique en live et j'avais envie, cette idée, ce projet qui me trottait dans la tête un petit peu de mêler... improviser en tout cas autour de la musique classique, de la musique du 20e et de certains styles. Et donc en ayant entendu parler de Charles Esser qui était donc pianiste à cette époque-là en double cursus jazz et classique au conservatoire, qui est quand même une sacrée gageure, je m'étais dit bon voilà, ça doit être le profil parfait. On a commencé à jouer ensemble, ça a tout de suite pris, tout de suite marché, et voilà, on a compris qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc à partir de là, on a essayé de construire des programmes. Le premier axe en fait de notre rencontre, c'était Chick Corea, donc grand pianiste de jazz qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et Gheorghe Ligeti, compositeur hongrois de la deuxième partie du 20e, qui est aussi décédé, mais avec qui on a essayé de créer des liens et d'improviser entre les deux, et ça a bien marché, donc on continue sur cette lancée-là.
Oui, alors le piano et les percussions qui ont en commun, entre autres, hein, la percussivité, justement, le programme que vous allez jouer ensemble avec Charles Esser le 23 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, bah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un programme qui vous ressemble et qui doit sans doute lui ressembler aussi.
Absolument. Comme je disais, on a un parcours en fait presque analogue. Nous deux, on a aussi tous les deux fait respectivement. Moi, j'ai fait un peu de piano et Charles un peu de percussion. Donc, on connaît un peu le monde de l'autre. Ça nous a amené à développer cette double culture. Donc, on essaye de mélanger ça. Les deux actes de notre concert de mardi, ce sera cette genèse dont j'ai parlé de Chico Rea Gheorghe Ligeti, auquel on ajoute quelques standards de Thelonious Monk. Et d'une autre partie, ce sera plutôt la première partie du concert, un axe autour de Lili Boulanger, Claude Debussy, Maurice Ravel et Bill Evans. C'est-à-dire qu'on a toujours trouvé que les harmonies de Bill Evans, très enrichies, en fait, collaient beaucoup à cette musique française du début 20e. Donc, ces compositeurs que je viens de citer, avec Lili Boulanger aussi également, qui est quand même une compositrice exceptionnelle. Donc, on est parti sur cet axe-là aussi, avec des arrangements originaux et une sorte d'orchestration entre, on parlait du rapport entre le piano et les instruments à percussion. J'irai même un petit peu plus loin parce que je joue principalement marimba et vibraphone, qui sont des instruments à clavier, comme le piano. On peut jouer sur les couleurs de ces lames, en fait, ces couleurs entre les cordes du piano, les lames en bois du marimba, celles en métal du vibraphone, et créer voilà, des couleurs, des alliages assez inédits. Et en plus de ça, improviser autour de ça, créer un vrai univers.
Aurélien Gignoux, que je remercie de m'avoir accordé cette interview avant son concert avec le pianiste Charles Esser à Saint-Pierre-des-Cuisines, mardi prochain, le 23 janvier à 20h, dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Nous allons bien sûr l'écouter dans ses œuvres. Il joue ici L'Aidronette, impératrice des pagodes, pièce extraite de Mamerlois de Maurice Ravel, une version pour marimba et petite percussion dont il a lui-même réalisé l'arrangement. L'Aidronette, impératrice des pagodes, extrait de Mamerlois de Maurice Ravel dans une version pour marimba et petite percussion, arrangée et interprétée par Aurélien Gignoux. C'est une des pièces au programme du concert que donne le jeune percussionniste toulousain avec le pianiste Charles Esser, mardi 23 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Un rendez-vous à ne pas manquer, proposé par la saison des Arts Renaissants, et deux jours plus tard, le jeudi 25 janvier à 20h à l'Opéra National du Capitole, a lieu la première représentation de La Femme sans ombre, l'opéra de Richard Strauss. Il va y en avoir trois autres les 28 et 31 janvier ainsi que le 4 février pour la dernière. Cette production reprend la mise en scène de Nicolas Joël. Robert Pénavert va nous en parler. Mais d'abord, je voudrais que vous nous disiez un mot, Robert, sur la destinée de cet opéra étrange, singulier, dont la création a eu lieu à Vienne en 1919, mais dont la première en France date de 1972 à l'Opéra de Paris, et l'entrée au répertoire du Capitole de 2006 seulement. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ?
Alors, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a nombre d'œuvres qui ne sont toujours pas rentrées au répertoire du Capitole.
Très grande œuvre, tout de même.
Ainsi, bon, on se souvient par exemple la Loulou d'Albambert à l'Opéra de Paris. Bon, c'est récent dans l'histoire de l'Opéra de Paris. Mais je comprends votre question, Eric. En fait, il y a des raisons tangibles. C'est un opéra qui est quasiment impossible à monter. Alors, oui, c'est pas impossible au sens étymologique du terme, mais il faut bien reconnaître que seules de très grandes maisons d'opéra peuvent se permettre d'afficher La Femme sans ombre. D'abord, il faut un immense orchestre qui est très habitué aux couleurs germaniques, qui est très habitué au répertoire de Richard Strauss, premièrement. Ensuite, il faut une régie de scène d'une très grande virtuosité. Ce sont trois actes qui se passent à des niveaux différents. Il y a le niveau des esprits, il y a le niveau des humains, il y a le niveau souterrain. Et puis à la fin du deuxième acte, il y a un tremblement de terre. Donc tout ça, il faut savoir le gérer. Et ensuite, il faut trouver un quintet de chanteurs dont franchement l'idéal ne se lève qu'à peu près une poignée de fois par siècle, très clairement. Et ensuite, il faut le goût également du directeur de cet opéra de se lancer dans une entreprise aussi hasardeuse, il faut le reconnaître, malgré qu'elle soit très prestigieuse. Et ça, cette entrée au répertoire, nous la devons très clairement à Nicolas Joël. Nicolas Joël adorait ce répertoire-là. Et c'est lui, je me souviens, là, lorsqu'il est entré en fonction au Théâtre du Capitole, il m'a dit, moi, j'ai trois choses à faire. J'ai La Femme sans ombre, j'ai la tétralogie et les Troyens. Malheureusement, le destin ne lui a pas permis
de faire tout ce qu'il avait envie de faire.
Mais bon, la tétralogie, nous l'avons eue, et La Femme sans ombre, nous l'avons eue. Ça, c'est quand même merveilleux. C'est un legs direct de Nicolas Joël. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Alors, comme c'est une production maison, elle est dans nos cartons.
Et voilà.
Et donc, du coup, la reprogrammer ne coûte pas grand-chose, si ce n'est, évidemment, le coût de la distribution.
Les chanteurs.
Voilà. Mais alors, en même temps, les budgets, enfin, je ne vais pas rentrer dans des histoires sordides, évidemment.
Mais ça existe.
Mais ça existe, voilà. Mais du coup, les budgets peuvent être reportés. Ouais. Sur le plateau vocal. Quand on connaît le savoir de Christophe Gristy en matière vocale et en matière également d'opéra allemand, c'est un vrai spécialiste,
comme de
tout le répertoire, il faut bien le reconnaître, mais ayant vécu à Vienne, Christophe Gristy connaît parfaitement cette œuvre. Voilà.
Rappelez-nous l'histoire de cette Femme sans ombre, parce que je disais, c'est étrange, c'est singulier.
C'est en fait un conte de fées qui est né dans l'idée d'un très grand poète viennois, Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal, Strauss, c'est un peu Mozart d'Aponte.
Parce qu'il y avait Electra, Le Chevalier à la Rose et Ariane Anaxos avant la Femme sans ombre.
Voilà. Il y a comme ça des alchimies qui sont complètement magiques. Et donc, c'est né dans la tête de Hugo von Hofmannsthal. À l'évidence, l'origine est extrêmement orientale. Et c'est un conte de fées. Très clairement, dans l'abondante correspondance entre ces deux génies, Strauss et Hofmannsthal, dont nous disposons, au sujet de la création de cette œuvre, en fait, on a toute l'explication de l'élaboration de cet immense chef-d'œuvre qui est peut-être unique. Et pour moi, c'est peut-être le chef-d'œuvre de Richard Strauss. Voilà, après, c'est une affaire de goût, c'est personnel. Alors, il y a une analogie très évidente avec La Flûte enchantée. Puisqu'en fait, ce sont deux couples qui, non pas vont s'affronter, mais vont se rejoindre dans une destinée merveilleuse. Alors, c'est un conte de fées, évidemment, comme dans les contes de fées, il y a des méchants, mais il y a des bons, il y a des génies, il y a différentes entités, et puis ça finit bien. Je suis désolé, mais je vous annonce la fin, ça finit bien.
On ne sait pas comment ça finit bien, donc c'est tout ce qui compte. Alors, que ça finisse bien, les gens sont contents déjà de savoir que ça finit bien. Reste à savoir
alors,
comment.
Alors, en fait, au départ, il y a la fille du roi des esprits, Kai Hobad, qui est l'impératrice. Alors pourquoi l'impératrice ? Parce que tout simplement, elle est tombée amoureuse d'un empereur humain. Et donc, elle est devenue femme, on comprend bien pourquoi, puisqu'elle s'est mariée avec lui. Mais par contre, elle n'a pas d'ombre, parce que comme c'est une divinité, le soleil passe à travers et ne projette pas d'ombre. Et donc, le fait qu'elle n'ait pas d'ombre veut dire également qu'elle ne peut pas être mère. Donc, il y a dans les règles de ce monde des génies et des divinités, il y en a une règle qui est assez terrible. Et à partir du moment où il y a une divinité comme ça qui se marie avec un humain, si elle n'est pas mère au bout de 12 lunes, elle revient à son état divin, mais par contre, son mari est pétrifié. En gros, il meurt.
Oui.
Voilà.
Donc, effectivement, ça pourrait mal se terminer, cette histoire.
Ça pourrait mal se terminer. Alors, évidemment, le tout est une ombre, ça ne s'achète pas au marché, une ombre, quand même. Surtout quand on est dans le milieu empereur, impératrice, bon, on est un peu au sommet de la région et du pouvoir. Heureusement, cette impératrice est une nourrice, qui est beaucoup plus méphistophélique qu'elle en a l'air.
C'est un personnage...
C'est l'aspect noir, c'est un peu Dark Vador dans l'histoire. Et elle a horreur des humains, horreur. Mais par amour pour l'impératrice, qu'elle aime beaucoup, la nourrice, elle consent à l'amener à l'étage inférieur, chez les humains. Et elle a pisté, si l'on peut dire, elle a visé un couple de teinturiers, Barak, le monsieur, et la dame qui n'a pas de nom.
Oui, parce que le seul personne... qui a un nom, c'est Barak.
Oui.
C'est le seul personnage
personne
qui a un
nom. Il y a l'empereur, l'impératrice,
la nourrice.
Il y a la nourrice, oui. Il y a la femme.
Oui, la femme.
Et la femme, c'est la femme de Barak. Alors, dans le couple, ça ne marche pas trop, en fait, et donc, elle ne veut pas d'enfant avec lui. Je ne dis pas qu'elle le trompe, mais elle ne veut pas assurer la descendance sur cet homme, parce qu'elle a beaucoup de choses à lui reprocher. Entre autres, Barak lui oblige à nourrir, à entretenir, à héberger ses trois frères. Trois frères qui sont handicapés. Il y a un bossu, un manchot, et qui sont des vauriens, en définitive, voilà. Et donc, elle est un peu en difficulté avec son couple, alors que Barak, lui, c'est la bonté faite homme, littéralement. C'est un être merveilleux, mais vraiment... Quand on le voit sur scène, quand on l'entend d'ailleurs, quand on examine un peu la partition de ces femmes sans ombre, qu'on voit un peu les phrasés doux et soyeux de Barak, et quand on voit les explosions telluriques de tous les autres, effectivement, je pense que Strauss a voulu volontairement marquer dans sa musique la bonté d'âme de cet homme. Donc, la nourrice et l'impératrice se déguisent et arrivent par magie, évidemment, arrivent dans la demeure du teinturier et se propose pour être leur servante. Et ensuite, la nourrice va tenter quelques subterfuges pour essayer de faire craquer la femme afin qu'elle vende l'ombre. On ne vous dit pas la fin, mais sachez qu'à la fin du deuxième acte, sur scène, il y a un tremblement de terre.
Bon. Alors, il y a de nombreuses prises de rôle dans cette production Capitole.
Alors, c'est simple. Tout le monde est en prise de rôle.
Oui, voilà. Alors, voilà. On va préciser les choses. Je n'ai pas d'extrait à vous proposer, comme ce sont des prises de rôle. Pas d'extraits qui sont interprétés par un des chanteurs que nous allons entendre du 25 janvier au 4 février au Capitole. Voici cependant une version du Wiener Philharmoniker et du chœur de l'Opéra de Vienne, dirigé par le grand Karl Böhm. Un extrait de l'acte 2, Zum Lebenswasser.
Thank you.
Zum Lebenswasser, extrait de l'acte 2 de La Femme sans ombre. Alors Robert, c'est le moment de nous présenter la distribution que nous allons découvrir lors de cette production à l'Opéra National du Capitole, qui sont les chanteurs qui tiennent les rôles principaux et puis aussi qui va diriger l'orchestre du Capitole voilà. Dans la fosse.
Alors, si vous voulez bien, Eric, je vais commencer justement pour rebondir sur l'extrait que vous venez d'écouter. Parce que, bon, il est très clair, avec Serge, nous avons eu la chance tous les deux de l'entendre diriger ça à l'Opéra de Paris en 1972. Donc, le grand détenteur du style straussien, c'est Carl Böhm. Très clairement, et vous nous allez faire écouter, merci beaucoup. Mais très clairement également, c'est un opéra qui appartient plutôt à des chefs d'orchestre de tradition germanique.
Germanique, oui.
Voilà.
Oui.
Et donc, Christophe Christy a, dans sa famille... dans sa famille professionnelle, oui, dans sa troupe, oui. Disons, il a Frank Berman. Frank Berman,
On commence à bien connaître maintenant.
Oui. Il nous fait tous les Strauss et tous les Wagner. Oui. Et me dit, mais avec quel succès ? Donc, évidemment, ça ne pouvait pas lui échapper.
Très apprécié aussi par les musiciens du Capitole, ce qui ne gâte rien.
C'est absolument.
Une chance, c'est une chance d'avoir.
Et nous sommes ravis de l'avoir parce que, mine de rien, si on n'a pas un chef qui tienne tout ce monde-là, avec toutes les difficultés qu'il y a, nous allons y venir, ça ne peut pas fonctionner. À un moment, ça dérape, c'est clair et net. Alors, donc, nous allons retrouver Ricarda Merbet, qui, en 2006, chantait l'impératrice. Et cette année, elle fait la femme.
La femme.
Voilà. Bon, c'est 18 ans après. Bah, évidemment, la voix a changé.
Et le rôle aussi.
Et donc, du coup, peut-être que l'impératrice, pour elle, est un peu
tendue.
Voilà, il ne faut pas oublier que dans sa scène d'entrée, il y a un contre-ré pour l'impératrice. Voilà. Et Ricarda Merbet, donc, va faire la femme pour la première fois de sa vie, la femme de Barak. Voilà. Nous allons découvrir, pour ma part, une cantatrice norvégienne dont maintenant aucun théâtre ne peut se passer à partir du moment où il affiche du Wagner. C'est Elisabeth Haig, elle est toute jeune, elle a 41 ans, son bac à sable, elle, c'est New York, Londres, Vienne, Bayreuth. Et boum, nous l'avons à Toulouse pour une prise de rôle, et pas n'importe laquelle, l'impératrice.
Et oui, c'est rôle quand très même, important.
C'est un rôle très important, avec des vocalises, avec une tessiture suraiguë mais infernale. Voilà, nous allons la découvrir, en plus, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez avoir un choc visuel également.
Nous avons compris ce que vous vouliez dire.
Voilà. Et nous avons, alors, et ce n'est pas rien, nous avons Sophie Koch pour sa première nourrice.
Qui est très agréable à regarder aussi et qui est une merveilleuse chanteuse, partie de la famille du Capitole.
Et qui fait partie de la famille du Capitole. Voilà, donc tout
prise
ça.
De rôle dont elle doit être très heureuse elle-même. Et puis, bon, c'est une germaniste distinguée.
Bien sûr, qui chante à Munich régulièrement. Voilà. Enfin, que... Alors, très clairement, les personnages, les trois personnages principaux sont là. Ce sont les trois
rôles féminins.
Les trois rôles féminins, voilà. Mais ce n'est pas pour autant que les deux rôles masculins ne sont pas. Donc, le rôle de Barak va revenir à un baryton américain qui s'appelle Brian Mulligan. Personnellement, je ne pense pas l'avoir entendu.
Son nom me dit
mais
rien.
Bon, alors, c'est son répertoire, c'est Votan, c'est l'Hollandais. C'est... Après, Barak, ça se chante évidemment, mais ça s'incarne également. Hein. Il faut à tout prix un personnage qui fasse passer beaucoup de compassion, d'empathie, d'émotion. Il ne faut pas que le chanter, Barak, ça c'est autre chose. Et pour chanter le rôle de ce pauvre empereur, qui n'est pas un rôle très très long, mais évidemment, comme tous les rôles de ténor chez Richard Strauss, il est inchantable. Voilà. Et donc, alors lui, nous l'avons déjà entendu. C'est un Américain qui a chanté le dernier Bacchus d'Ariane Anaxos, ici, voilà, qui s'appelle Isaac Savage. Et donc, il s'attelle à un rôle absolument dément et nous l'attendons avec impatience, sans trop se faire de mauvais sang d'ailleurs. Hein.
Ouais. Voilà. Bah, y a beaucoup de curiosité autour de cette œuvre, ne serait-ce que par ces cinq prises de rôle pour les cinq rôles principaux.
Il ne faut pas oublier qu'il y a des chœurs également.
Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de monde sur scène.
Il y a des chœurs. Il y a des chœurs qui troublent beaucoup d'ailleurs. C'est le chœur des enfants à naître.
Ah,
voilà.
Ça c'est
très troublant d'entendre cette partie-là, hein, Serge.
Ah, absolument.
Chaque fois, c'est quelque chose qui fait passer le frisson.
Oui.
Voilà, donc le chef-d'œuvre de Richard Strauss est à l'affiche de l'Opéra National du Capitole du 25 janvier au 4 février dans la mise en scène de Nicolas Joël. Il n'y a que 4 représentations, les 25, 28 et 31 janvier ainsi que le 4 février. Il reste encore des places, mais il faut tout de même vous dépêcher de réserver les vôtres si vous voulez assister, n'est-ce pas Robert ?
Alors attention, les représentations du soir sont à 19h.
Hein. Et oui, c'est pas 20h, c'est 19h. Merci de le préciser.
Parce que l'opéra est long.
Est long, oui.
Oui, il dure à peu près 3h30. Hein,
oui, donc, avec les entrées, on a 4h15, je crois.
Oui, évidemment, y a deux entractes parce que l'opéra est tellement difficile. Il faut que tout le monde se repose.
Deux fois. Ouais. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, juste assez pour vous annoncer, vous présenter le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole à l'Allograin. Il a lieu dimanche, le 21 janvier, à 11h et 16h. Et c'est une proposition pour le jeune public, un concert à voir en famille. Pour les enfants à partir de 6 ans, ce conte musical a un joli titre, Serge, L'enfant qui entendait les étoiles.
Oui, oui, alors il s'agit d'un conte musical. C'est une histoire d'Élodie Fondacci sur des musiques de Maurice Ravel, Éric Satie et Claude Debussy, des musiques qui sont jouées par un petit ensemble de musiciens. Il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est vraiment une œuvre très poétique et très belle.
Onirique, poétique.
Et qui est mise en scène, d'ailleurs. Il y a une mise en scène alors, d'un organisme qui s'appelle Scénorama, qui met ceci en scène, et une récitante. Et la récitante, ce sera évidemment Élodie Fondacci elle-même.
Oui, voilà. Qui est productrice d'émissions à Radio Classique.
Voilà. Et puis, ce même programme sera donné en concert éducatif à la Allograin les jeudis 18 et vendredis 19. À 10h et à 14h30. Ça sera donné de nombreuses fois. Quatre représentations.
Et donc deux le dimanche à 11h et 16h. Et bien parmi les musiques qui accompagnent le récit d'Élodie Fondacci, il y en a plusieurs de Maurice Ravel, dont le féerique Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes. Introduction et Allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes de Maurice Ravel, l'une des pièces qui accompagne le récit d'Élodie Fondacci lors de son conte musical « L'enfant qui entendait les étoiles » avec les musiciens de l'Orchestre du Capitole, ce dimanche 21 janvier à la Allograin. Il y a deux séances, la première à 11h et la seconde à 16h pour ce concert jeune public à voir en famille pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Pour le concert du duo Aurélien Gignoux-Charles Esser, le mardi 23 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, présenté par la saison des Arts Renaissants, je vous invite à réserver et acheter vos places sur le site www.art-renaissant.fr. Et je rappelle enfin qu'il y a quatre représentations de La Femme sans ombre, l'opéra de Richard Strauss, les 25, 28 et 31 janvier ainsi que le 4 février à l'Opéra National du Capitole. La mise en scène est de Nicolas Joël et c'est Frank Berman qui dirige l'orchestre du Capitole dans la fosse. Il reste encore des places et la billetterie est en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chauzy et Robert Pénavert qui ont co-animé cette émission à mes côtés. Merci aussi à Christophe Aubry qui l'a réalisée. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous de nous écouter fidèlement chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale. À bientôt.